Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal de midi sur Radio Kapi, paralysie des activités socio-économiques ce lundi matin dans le centre-ville de Bunia-Nituri. C'est à la suite de l'assassinat hier de 4 personnes, dont 3 membres de la communauté Yira, dans un comptoir d'achat d'or. Ainsi, cette association culturelle décrète 2 jours de deuil pour condamner ce meurtre et interpeller les autorités. La nouvelle société civile congolaise dans la province du Kasaï central demande au gouvernement provincial de faire un suivi rigoureux des travaux de construction et d'asphaltage de la route Kananga-Kalambabouji. Selon son coordonnateur provincial, le problème que connaît cette route, c'est l'évaluation régulière de l'avancement des travaux et les recommandations. Notre invité est le président du Parlement des jeunes de la ville de Beni, au Nord Kivu, Samuel Donkatembo Sekanabo, appelle toute la population à s'approprier la lutte contre la désinformation. En effet, en l'espace d'une semaine, on estime à une quinzaine le nombre de personnes tuées dans la région de Butembo et Lubero dans la vindicte populaire consécutive aux fausses informations. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Grâce à Mzati Masanzi est à la présentation. Province de l'Ituri pour commencer. Les activités socio-économiques tournent au ralenti ce lundi matin dans le centre-ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. C'est à la suite de l'assassinat dimanche de 4 personnes, dont 3 membres de la communauté Yira, dans un comptoir d'achat d'or. Cette association culturelle décrète 2 jours de deuil pour condamner ce meurtre et interpeller les autorités à renforcer la sécurité de la population. La police affirme avoir arrêté certains suspects pour des enquêtes. Radio Kapi Bunia, Ezekiel Mouzalia.
Presque toutes les maisons de commerce de la communauté Yira sont fermées à Bunia pour compatir avec les familles des victimes, mais aussi dénoncer les meurtres des 3 membres de cette structure et un autre civil par des bandits armés qui se sont introduits dans un comptoir sur l'avenue Ituri à Bunia. Les victimes ont été séquestrées puis abattues par balles sans faire de bruit et un colis d'or emporté. Leurs corps ont été découverts 2 heures plus tard, ce qui porte à 11 membres de la communauté Yira tués depuis le début de l'année. Son président fustige la léthargie des services de sécurité. Moufal Memouké.
Les bandits sont entrés à pleine journée où tous les services de sécurité, nous ne savons pas comment ils sont en train de travailler. Depuis janvier jusqu'à juillet ici, nous venons de perdre 11 membres de la communauté Yira dans les mêmes circonstances. Nous avons décidé de garder 2 journées.
Le commandant ville de la police indique que certaines personnes sont aux arrêts pour des raisons d'enquête. Le colonel Abeli Mwangu.
Les bilans provisoires se présentent comme suit. 3 morts tués par balle, y compris les propriétaires. Les enquêtes sont en cours. Certaines personnes sont déjà entre les mains des services spécialisés pour les auditions.
Un autre civil a été tué dimanche par un militaire des FARDC toujours à Bunia. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Pendant ce temps au sud Kivu, une institution de microfinance, Paydec, agence de Calais, a été cambriolée par des bandits munis d'armes à feu dans la nuit du samedi au dimanche. Le policier des gardes a été tué et son arme est récupérée par les assaillants. Une mission d'enquête partie de Bukavu ce lundi a été dépêchée à Calais par l'institution concernée. Toutefois, les sources proches des Paydec rassurent leurs membres que la trésorerie n'a pas été touchée et les activités vont se poursuivre normalement. Jean Kassami pour le reportage.
Les bandits ont emporté quelques miettes des sommes d'argent rencontrées dans les bureaux, mais les gros étaient gardés ailleurs, renseignent nos sources proches de l'institution Paydec, promotion et appui aux initiatives de développement économique du Kivu. La société civile de Calais déplore la perte en vie humaine, mais aussi regrette la tentative de cambriolage d'une coopérative qui contribue au bien-être économique des familles démunies. Les bureaux de la société civile Force Vive de Calais demandent aux autorités compétentes de diligenter une enquête approfondie le plus tôt possible pour dénicher les assaillants et les déférer devant les juridictions afin qu'ils répondent de leurs actes. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Cette autre nouvelle qui nous vient du Nord Kivu, les transporteurs d'eau de Goma pourraient lever aujourd'hui leur grève des 3 jours. Ils observent depuis samedi à la suite d'une mesure des nouvelles règles de circulation des camions poids lourds imposées depuis le 25 juin dernier. La Commission nationale des préventions routières indique que ces dispositions sont modifiées en faveur des transporteurs d'eau. Sur le terrain, les conséquences se font déjà ressentir. N'est-ce pas, Bernard Denyangi?
Consécutivement au communiqué officiel du 25 juin dernier interdisant la circulation des camions poids lourds sur certains tronçons routiers aux heures de pointe, les transporteurs d'eau se sont vus tracassés par la police de circulation routière. ce qui les a amenés à annoncer une grève illimitée. Ce lundi, le directeur provincial de la Commission nationale de prévention routière, Saint-Père, sort un nouveau communiqué fournissant de nouvelles dispositions. Éric Louchekou.
Le communiqué, il est là. L'exemption est faite à ces transportants de l'eau. À la minute où je vous parle, tous les transporteurs, surtout ceux de poids lourds, sont invités pour que nous puissions changer avec eux, voir quelles peuvent être les mesures exceptionnelles et comment est-ce que nous pouvons nous comporter sur la chaussée avec la PCR pour essayer de réglementer cette situation-là.
Sur le terrain, les trois jours de grève des transporteurs d'eau depuis samedi donc entraînent déjà des conséquences. Étienne Muzungu, un habitant de Nyiragongo, dit que dans la zone de Munigi-Kanyaruchinya par exemple, un bidon de 20 litres d'eau qui coûtait 250 francs congolais se vend actuellement à 700 voire même 1000 francs congolais, ce qui pour lui affecte autant les habitants que les déplacés locaux. Du côté des transporteurs, Ramazani Kagabo, le président des propriétaires des camions de transport d'eau, précise que dès ce lundi, leurs 140 camions pourraient reprendre. Le service Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Nous le disions dans les titres, au Kasaï central, la nouvelle société civile congolaise appelle le gouvernement provincial à faire un suivi rigoureux des travaux de construction et d'asphaltage de la route Kananga-Kalambambouji. D'après son coordonnateur provincial, le problème que connaît régulièrement cette route d'espoir pour le centre kasaïen, c'est l'évaluation régulière ou trimestrielle sur l'avancement des travaux et les recommandations. Albert Ngalamouloumé, dans ses propos recueillis par François Kadima.
En tant que représentant du pouvoir central au niveau de la province, le gouvernement provincial a le devoir de faire le suivi. Et ce suivi doit être régulier et permanent. Il doit être accompagné de ses services. Vous savez qu'au niveau de la province, le gouvernement provincial travaille avec les services techniques. Nous avons par exemple le ministère des ITPR, nous avons l'office des routes, l'OVD, tous ces services doivent nécessairement accompagner les gouverneurs de province afin de faire ce travail de suivi au niveau de la route Kananga-Kalambambouji. Le gouverneur a ce devoir-là de mettre sur pied tous les mécanismes possibles afin de faire les suivis. Après les suivis, qu'est-ce qui suit? Il y a les rapports qui doivent être envoyés à temps réel au niveau de sa hiérarchie à Kinshasa pour que rien ne soit caché comme ça a été lors de l'exécution de ces travaux par les différentes entreprises qui ont fait beaucoup de tapage au niveau de la province.
Signalons que c'est la semaine dernière que le ministre des ITPR a lancé les travaux de construction et d'asphaltage de la route Kananga-Kalambambouji pour une durée de 24 mois. Et dans la province voisine du Kasaï oriental, la direction générale des douanes et assises ne parvient pas à atteindre ses assignations depuis près de 5 ans. Le directeur provincial l'a dit la semaine dernière au gouverneur des provinces. Patrice Mbwaki Manoka justifie cette situation par la diminution des activités économiques de la société minière des Bakwanga Miba et la délocalisation vers l'espace Katanga des activités économiques des opérateurs économiques du Grand Kasaï à cause des difficultés d'acheminement de leurs marchandises par la Société nationale des chemins de fer SNCC. Patrice Mbwaki Manoka, directeur provincial de la DGDA Kasaï Oriental, s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
Ici, au Kasaï oriental, l'activité économique a beaucoup ralenti depuis que les activités de la MIBA sont plus bas. C'est la MIBA qui constituait jusque-là la colonne vertébrale de l'économie kasaïenne. Nous, comme nous appliquons une fiscalité des portes, nous avons aussi ressenti la baisse au niveau de la mobilisation des recettes parce que les marchandises ne viennent plus comme ça venait à l'époque où la MIBA était dans sa prospérité. Les autres opérateurs économiques pratiquement ont délocalisé leurs activités. Beaucoup qui viennent avec des marchandises, mais qui les dédouanent dans d'autres provinces. Par exemple, l'espace Katanga. Et beaucoup d'opérateurs économiques qui amènent des marchandises ici les amènent en libre circulation. Moi, j'ai des assignations que je dois réaliser. Ça ne m'arrange pas. Le problème qui est évoqué, c'est le problème de transport, la voie ferrée. Il ne devrait pas être le problème du trajet qu'on fait. Les trajets, les mêmes. C'est pour ça que nous exhortons toujours la SNCC de rendre disponibles des wagons pour l'acheminement des marchandises dans l'espace Kasaï de manière à enlever cet argument de la bouche des opérateurs économiques. Il n'y a pas un problème de traversée.
Par ailleurs, l'ASBL Congo Action pour une diplomatie agissante CADA plaide pour un cessez-le-feu général dans la partie est du pays en lieu et place d'une trêve humanitaire de 2 semaines telle que proposée par les États-Unis d'Amérique la semaine dernière. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le coordonnateur de cette structure pense qu'il est temps que les milliers de déplacés qui vivent dans des situations difficiles puissent rentrer paisiblement chez eux. Eric Kamba affirme qu'un cessez-le-feu général permet d'interrompre les combats et pourra conduire à une paix durable. On l'écoute au micro d'Alain Rong.
Congo Action pour la diplomatie agissante, CADA, pense que cette trêve humanitaire ne veut rien dire. C'est un cessez-le-feu immédiat dont le Congo a besoin. CADA plaide plutôt pour un cessez-le-feu général qui serait un arrêt des combats sur tous les fronts, partout, et tout le monde dépose les armes pour mettre fin aux hostilités. Une pause humanitaire est quelque chose de temporaire qui peut toujours mener à des violations de mesures prises. Pour CADA, un cessez-le-feu permet d'interrompre le combat et pourra conduire à une paix durable. Nous devons donc faire attention aux sémantiques d'où qu'elles viennent. Bien que la trêve humanitaire puisse, par exemple, constituer une petite étape vers une résolution pacifique du conflit ou un accord de paix, ce qui est incertain dans ce cas, CADA ne le pense pas parce que M. Paul Kagame est très mal intentionné. Ses actes et actions en témoignent.
Dans la province de la Tchopo, la campagne de sensibilisation des ménages de la ville de Kisangani à l'utilisation des foyers améliorés s'est clôturée hier au marché central de cette entité. Pendant environ une semaine, les fabricants des foyers ont exposé leur production pour la vente auprès des potentiels clients. Cette campagne, appuyée par les CIFOR, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la déforestation, un des facteurs à la base du changement climatique. Un reportage signé Jacques Mukonkole.
L'organisation de cette campagne de sensibilisation répond à la volonté du CIFOR d'augmenter le taux d'adoption des foyers améliorés par les ménages de la ville de Kisangani en particulier et ceux de la province de la Tchopo en général, indique Michel Siakomakoulé, assistant technique bois et énergie de cette organisation internationale.
Quand un ménage achète les foyers améliorés, il réduit la consommation de charbon de bois par ricochet, il protège la forêt contre la déforestation liée à la coupe de bois pour la fabrication des makala. En protège déjà la forêt, également, ça rend service au monde entier à travers les services écosystémiques. Voilà pourquoi CIFOR appuie ces entreprises.
L'objectif pour cette campagne annuelle est la production de 30 000 foyers améliorés. À 6 mois de la fin de l'année en cours, 15 000 foyers ont été mis sur le marché. Au regard des avantages qu'ils présentent, le président des fabricants des foyers dans la Tchopo, Robert Bondo, convie les ménages à les adopter.
Nous demandons aux ménages d'utiliser, de consommer les foyers améliorés. Il y a beaucoup d'avantages. Qui diminue d'abord le coût des charbons. Ce que je demanderais à la population qui sont sécurisés en utilisant nos foyers améliorés parce que ça a prouvé au laboratoire.
Rappelons que le CIFOR appuie les fabricants des foyers de la Tchopo sur le plan administratif, technique et financier en vue de la maximisation de leur production. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Rendons-nous dans la province du Bas-Ouélé où Monseigneur Martin Banga Ayanyaki, nouvel évêque du diocèse de Bouta, a été sacré hier dimanche. La messe d'ordination épiscopale a été célébrée par le cardinal Fridolin Ambongo à l'esplanade de la cathédrale. Plusieurs personnalités aussi bien politiques, civiles, militaires que religieuses y ont assisté. Parmi les personnalités religieuses, le nonce apostolique Mitja Leskovar, l'archevêque de Kisangani, Monseigneur Marcel Outembi, ainsi que l'évêque du diocèse de Lolo, Monseigneur Jean-Bertin Nandonier. Ce dernier a administré le diocèse de Bouta après la retraite de Monseigneur Joseph Bangabane en 2021. Retrouvons à nouveau Jacques Mukonkole.
Dans son homélie, l'officiant du jour a rappelé au nouvel évêque de Bouta sa mission pastorale, celle de conduire ses brebis vers le pâturage et donc sur une bonne voie. Le cardinal Fridolin Ambongo insiste également sur le caractère d'homme qui doit unir et non celui qui prône la discrimination. Il doit se mettre à l'écoute des prêtres, des religieux et des laïcs. Poursuivant ses conseils à l'endroit du nouveau pasteur du diocèse de Bouta, le cardinal l'invite à la collaboration avec d'autres confessions religieuses ainsi qu'avec les autorités étatiques. Pour sa part, Monseigneur Martin Banga Ayanyaki se donne pour devise servir dans l'humilité. Rappelons qu'il a été nommé par le pape François en date du 15 avril dernier alors qu'il assumait les fonctions de vicaire régional de l'ordre de Saint-Augustin basé à Dungu. Cette nomination est intervenue après la démission de Monseigneur Joseph Bangabane dont le souverain pontife avait accepté la démission le 17 mai 2021. Le nouvel nouvel évêque de Bouta totalisera 52 ans d'âge le 1er décembre prochain. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi le sport. La 15e édition de la Ligue nationale de football féminin se clôture ce lundi à Lubumbashi. La finale oppose le football club féminin Amani de Kinshasa à la formation correspondante des Mazembe de Lubumbashi. Les deux formations étaient chacune première de son groupe. L'équipe championne va représenter le pays en Ligue des champions de la CAF. À noter que les deux dernières éditions étaient gagnées par le football club féminin Mazembe. Ce match vous sera présenté en intégralité sur les antennes de Radio Kapi au cours des 15h, heure de Lubumbashi, et 14h, heure de Kinshasa.
Actualité internationale.
La grève déclenchée par les enseignants de l'université Marien Ngouabi de Brazzaville entre dans sa 5e semaine. Le mouvement va perdurer. Les professeurs conditionnent sa levée au paiement d'au moins 2 mois de salaire. Une équation difficile pour le gouvernement. Les étudiants disent, eux, être les grands perdants de ces conflits.
L'invité.
C'est le président du Parlement des jeunes de la ville de Beni, au nord Kivu, Samuel Don Katembo Sekanabo, pense qu'il est urgent que toute la population s'approprie la lutte contre la désinformation. À l'espace d'une semaine, on estime à une quinzaine le nombre de personnes qui ont perdu la vie dans la région de Butembo et Lubero à la suite de la vindicte populaire consécutive aux fausses rumeurs. Comment faire pour amener les populations à s'approprier la lutte contre ces fléaux? Quelle stratégie utiliser pour sensibiliser les communautés sur les dangers de la désinformation? Samuel Don Katembo Sekanabo répond à toutes ces questions dans cet entretien avec Guylaine Kassassia.
Don Katembo Sekanabo, bonjour.
Et bonjour, merci.
Que vous inspire les récents incidents de Butembo et Lubero où des dégâts matériels et humains ont été enregistrés la semaine dernière avec un hôtel vandalisé, de véhicules d'une ONG internationale incendiés, de civils et militaires de FARDC tués par la justice populaire à cause de fausses rumeurs?
Nous sommes désolés de la situation qui se passe dans notre zone, d'autant plus qu'il y a l'M23 qui progresse, mais aussi nous, que population, nous sommes en train de dramatiser beaucoup de choses. Bien sûr, l'ennemi avance et nos militaires sur la ligne de front en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et nous, maintenant, dans la communauté, nous nous donnons à une désinformation comme pas possible. Si Butembo a été victime des attaques de l'hôtel et Believe, les véhicules d'une organisation internationale les incinérés mutuellement, c'est parce qu'il y a juste une désinformation. Les gens ne savent pas sur ce quoi. Et tout ça, c'est parce que peut-être l'État congolais n'a pas su bien communiquer avec la population, essayer de donner la bonne version de tout ce qui se passe. Et maintenant, on laisse à la rue de communiquer. Et là même, l'ennemi peut profiter pour communiquer juste lorsqu'il y aura incendie, lorsqu'il y aura déjà des hôtels vandalisés, les gens ont perdu leur vie. C'est déjà l'actif pour l'ennemi.
Alors, les médias sociaux font partie des acteurs de la désinformation. Que faites-vous en tant que responsable d'une structure des jeunes pour changer la donne? Étant donné que ces médias en ligne, mais aussi les groupes WhatsApp sont gérés en majorité par des jeunes.
Jusque-là, nous, dans notre manière de faire, nous sommes en train de lutter contre la désinformation dans toutes ses formes, mais surtout dans les groupes là que nous sommes. Nous avons fini la télé de la désinformation il y a peu. Nous continuons à sensibiliser. Pour votre information, nous projetons une activité la semaine prochaine à Butembo, où nous allons voir les responsables des organisations de jeunes à la ville de Butembo. Nous allons essayer de leur former sur la lutte contre de la désinformation sur les réseaux sociaux, la manipulation, parce que tout ce qui se passe est que les gens n'ont pas su gérer leur groupe WhatsApp. Or, le code du numérique punit des publications incitant à la haine, et nous, nous continuons toujours la vulgarisation du code du numérique, mais aussi la formation dans des groupes spécifiques par rapport à la désinformation dans des réseaux sociaux. Et nous demandons à tous les administrateurs de groupes WhatsApp qu'ils puissent mettre de l'ordre dans leur groupe.
Mais comme vous venez de le dire, en dépit des efforts fournis par la MONUSCO et d'autres partenaires pour lutter contre la désinformation et les discours de haine à travers l'organisation des sensibilisations et des formations dans la région de Beni, Butembo et Lubero en proie aux atrocités, que faudrait-il encore faire de plus pour changer la mentalité de la communauté, surtout celle des jeunes?
D'abord, la jeunesse doit comprendre que tout ce que nous faisons, nous en sommes responsables aujourd'hui, même dans le futur. Et nous encourageons tous les partenaires qui sont en train de mettre l'accent sur la désinformation. d'information. Encourageons la MONUSCO pour sa manière de travailler avec la communauté pour l'appuyer de la désinformation. Mais ce qui reste encore à faire, c'est élargir la zone. Vous savez, lorsqu'on forme sur la désinformation, c'est peut-être une minorité des gens qui profitent de cette formation. D'autres ne bénéficient pas directement. Donc, nous demandons à tous les partenaires d'accompagner encore une fois les actions visant à lutter contre la désinformation pour que notre zone soit écartée du risque de la désinformation. Mais aussi, nous, acteurs utilisant des réseaux sociaux, comportons-nous aussi responsables.
Peut-être pour finir, à part l'organisation des sensibilisations et des formations, quel autre canal on peut encore utiliser?
Ce qu'on peut encore utiliser, c'est les médias professionnels. Vous savez, d'abord, le groupe WhatsApp ici nous cause beaucoup de difficultés. Tout celui qui y publie n'est même pas journaliste. Et tout celui qui va lire, se donne aussi l'audace de partager. Il partage des choses sans vérifier. C'est ainsi que nous appelons, à part la formation qui se passe dans des groupes spécifiques, les radios et les télévisions, mettez aussi des programmes de lutter contre la désinformation. Surtout pendant ce temps de vacances, les enfants ont tout le temps de suivre les radios, ont tout le temps de suivre la télévision. Les responsables des ménages, les parents, peuvent ne pas peut-être connaître la matière sur la désinformation, mais qu'ils mettent d'abord à tête et cœur. Si vous dites à votre enfant que si vous publiez une chose sans vérifier et que l'État tombe sur vous, vous serez puni. Nous pensons que juste ça, ça va juste aider la population de comprendre que tout ce que nous faisons, ça peut nous créer des difficultés un jour dans la vie.
Monsieur Do Katembo Sekanabo, merci.
À moi de vous remercier.
Le président du Parlement des jeunes de la ville de Beni, au Nord Kivu, était interrogé par Guylaine Kassassia. Fidèles auditrices et auditeurs de la fréquence de la paix, ce journal touche à sa fin. Il a été coordonné par Jordan Blaise Ndani Kambala sous la supervision éditoriale de Martin Sebujangwe. Mimi Kindou a assuré la mise en onde et à la présentation grâce à Mzati Masanzi. Merci de nous avoir écoutés et de retrouver ce journal sur www.radiocapi.net.